Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain. Bonjour Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Et bonne année Aline.
Et très bonne année à vous, à tous nos auditeurs.
Voilà, et on va continuer ce démarrage en fanfare avec Michel de Rivoire. Bonjour Michel.
Bonjour Aline, bonjour Sébastien.
Et tous nos voeux Michel.
Et tous nos voeux Michel.
Et les miens en retour, et ainsi qu'à tous nos auditeurs.
Santé, prospérité et encore de belles découvertes dans cette série que nous avons entamée avec vous, Demeures et familles, pour évoquer ces grandes familles des élites politiques, commerçantes, nobilières de la ville. Et comment ces dynasties se traduisent au plan matériel par des belles demeures en espace rural ou urbain dans la région toulousaine. Alors aujourd'hui, on continue avec la famille des Bernuys au XVIIe siècle.
Oui, on commence par vraiment la tête d'affiche qui va parler à tous nos auditeurs. Et ce qui est intéressant, ce que nous souhaitons pouvoir démontrer, c'est la place de ces familles dans Toulouse et également les correspondances qu'on peut trouver hors de Toulouse, ce qu'on ne pense pas forcément à faire. Donc ce lien, il nous a paru essentiel, il a été tout à fait accepté par Michel, qui a eu la gentillesse de le travailler, et je vais lui laisser la parole. Sur les Bernuys.
Alors, en ce qui me concerne, c'est un régal. Comme je l'avais dit une fois précédente, la matière première pour nous, Chronique du Pays Toulousain, animée par les Toulousains de Toulouse, c'est la revue de la Haute-A. Parce que rien que pour les Bernuys, c'est presque un numéro sur 3 ou 4, vous voyez, où on fait une allusion directe ou indirecte. Bon. Les Bernuys, je vais vous laisser, Aline, peut-être rappeler leurs origines lointaines espagnoles, avant d'évoquer leur présence toulousaine.
Les Bernuys, ils nous viennent d'Espagne. C'est une famille originaire, c'est une famille juive,
voilà,
originaire d'Avila, qui a subi beaucoup de désagréments, comme on peut le supposer, qui s'est établie à Burgos, qui est une ville vraiment très commerçante, et qui a fondé une compagnie, c'est-à-dire une entreprise familiale, où ils se sont fait beaucoup de commerce du drap, et puis ils se sont lancés, pour des raisons vraiment de rapport intéressant sur investissement, dans le pastel. Et c'est là, surtout, qu'on les a repérés à Toulouse. Ils ont choisi Toulouse, je crois, parce que la situation de Toulouse entre océan et Méditerranée,
Avant le canal du Midi, nous sommes d'accord.
Avant le canal du Midi, bien, on est au XVIe siècle.
Tout début.
Extrême fin XVe, début XVIe. Et c'est une position géographiquement intéressante. Mais je vous laisse continuer.
Voilà, surtout que non seulement, comme vous venez de l'évoquer, on va se focaliser sur la personnalité de Jean de Bernuys. C'est un des 4 descendant de cette famille que vous avez évoquée, qui vraiment va être le Toulousain et celui qui signe les plus grandes réalisations foncières, enfin architecturales, tant à Toulouse qu'en dehors. Et ce Jean de Bernuys, qui naît vers 1475, va particulièrement bien s'intégrer à la haute société toulousaine. Alors, on vient de le dire, c'est à la fois, ils ont des talents innés, j'imagine, mais des talents de financiers, de marchands, d'ingénieurs, ils multiplient tous les talents. Sans beaucoup de concurrence. Et ce que je voulais vous amener à dire, c'est que ils vont acheter du foncier pour fabriquer le pastel. Parce que on se doute bien que c'est pas eux qui font la popote et qui font toute la chaîne de production.
Ils sont sur toute la filière, finalement.
Ils maîtrisent toute la filière.
Ah oui, c'est ça.
Ils financent toute la filière et ils le font écouler, soit lui-même, soit par ses frères qui sont ailleurs en Europe, dans les Flandres ou en Angleterre. Et ce Jean de Bernuys, donc on va dire un mot quand même de sa biographie. D'abord, quand on voit son image, nous l'avons sous les yeux, mais pour les auditeurs, c'est facile à trouver par Internet. Voilà, il a une main, son portrait, une main sur des jetons, j'imagine, ou en tout cas de l'argent peut-être, et l'autre main sur quelque chose qui semble être soit un bonnet, soit un portefeuille, enfin quelque chose qui compte, un contenant. Et ce Jean de Bernuys, voilà, c'est tout le symbole de ce personnage.
C'est un vrai homme d'affaires.
Un homme d'affaires au sens contemporain. Peut-être, Sébastien, tu as des ressemblances, enfin, ou en tout cas des sagas qu'on peut voilà, avoir en tête aujourd'hui. Bon, alors, il épouse une personne qui est Marguerite Dufort, une jeune femme, fille d'un noble parlementaire influent qui est Arnaud Dufort, procureur général au Parlement et seigneur de Saint-Jory. C'est une famille qu'on verra dans une prochaine émission. Et il ne peut pas choisir meilleur parti. Hein, début 16e, c'est vraiment la crème de la crème au Parlement de Toulouse et qui tient les leviers du pouvoir. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que avec cette famille, il est bordé de tous les côtés, j'allais dire, et il va investir sa fortune dans le foncier, puisqu'il achète une seigneurie. Alors, plutôt dans l'Aude, vous voyez, Aline, Toulouse, c'est centre, on le verra, de rayonnement, hein, c'est au centre...
Oui, c'est le centre du commerce,
du
de l'activité.
Pouvoir et de l'activité. Oui. Mais, je dirais, ses bureaux, non, mais enfin, ses établissements sont près de, disons, de Castelnaudary. La seigneurie de la Villeneuve-la-Comtale, qui existe toujours, la commune existe toujours, la baronnie de Bram et une partie de Saint-Sulpice-la-Pointe, qui n'est pas vraiment près de Castelnaudary, mais également celle de Léran et de Lasbordes, qui sont dans l'environnement.
Alors, l'Aude. Est-ce que ça correspond aux zones de culture du pastel?
On est aux portes du Lauragais, Saint-Sulpice en haut, et je dirais Castelnaudary au sud.
Il faut rappeler ce qu'est une seigneurie. Ce sont des terres avec les droits d'exploitation de ces terres, et puis notamment des monopoles. Le four, parfois le droit de justice.
La tuilerie.
La tuilerie.
Haute, moyenne et basse.
Voilà.
Voilà, mais on passerait beaucoup de temps, Sébastien, à détailler tout ça. Voilà. On aimerait bien, nos auditeurs aussi. Et surtout, il construit à Toulouse. Et on va peut-être en dire un mot tous les trois. Alors.
Il construit à Toulouse ville qui, malgré le grand incendie du XVe siècle qui aurait pu faire évoluer. On est encore dans des séries de parcelles qui sont très médiévales, des parcelles en languette. Et donc, il va acheter, ça c'est intéressant, il va rassembler plusieurs parcelles.
Alors, pouvez-vous nous les situer? Moi, j'ai lu rue des Argentiers, une rue a disparu.
C'est la rue Gambetta.
C'était la rue Gambetta, absolument. Oui. De toute façon, on va droit au but, c'est l'hôtel de Bernuy.
La rue des Argentiers lui allait très bien.
Le collège de Fermat. Oui.
On nous avait dit tout à l'heure, c'était parfait.
Voilà, mais enfin, le grand classique, c'est-à-dire qu'il achète des parcelles, comme vous dites, en lanière, enfin. Et il fait travailler un grand maçon, maître maçon, on ne parle pas encore d'architecte, de cabinet d'architecte, qui est Louis Privat. Donc c'est un ancêtre, enfin un prédécesseur, pardon, de Dominique Bachelier.
Eh oui.
Donc, la campagne de travaux s'étend de 1520 environ à 1530. Donc, on est dans un style de... Enfin, je pense que pour nos auditeurs, il n'y a rien de plus simple que de se rendre compte de l'architecture.
Oui, mais le portail sur la rue Gambetta est quand même à des relents gothiques.
Oui, c'est du gothique tardif, ou flamboyant tardif, oui.
Récemment restauré.
Voilà, magnifiquement, on peut le dire.
Magnifiquement restauré par le département.
Et, compris les deux cours.
Oui. Alors, certains y ont vu dans la loggia, donc qui parcourt cette cour intérieure, correspondances avec ce qu'on construit en Castille, justement.
Ah oui.
Ah, c'est innovant à Toulouse au début du XVIe siècle. Donc, dans cet hôtel, il va recevoir beaucoup de monde, on n'a pas le temps de détailler, mais en particulier un visiteur de marque, puis il s'agit de François Ier. Et François Ier, dit-on, c'est Dumège, notre grand historien du 19e, voilà, qui fait référence au paiement de la rançon par Bernuy lui-même. Alors, il est déjà plus qu'installé. Il est plus que généreux, il peut se permettre d'être généreux parce qu'il va payer 1 200 000 écus d'or, dixit lauta, citant Dumège, et que, donc pour le remercier, lors d'une visite à Toulouse, François Ier serait venu. Donc,
en visite à l'hôtel.
Voilà, reçu chez Jean de Bernuy. Et vous connaissez l'anecdote, mais pareil, ça évoque tellement de l'histoire toulousaine, de la belle Paul, Madame Paul, Paul de Viguier. Oui.
Qui non, aurait... dans la saga, là.
Voilà, complètement dans la saga. Dommage qu'on n'ait pas d'image par la voix des ondes. Mais enfin, voilà, c'est une belle histoire. Alors, quel est le sort de ce
que nous
Jean
n'avons
Bernuy
jamais raconté aux auditeurs ici, dans cette émission?
La belle Paul, oui, on pourrait y penser, oui. Voilà. C'est vrai. Bon.
Et donc, il ne s'arrête pas à cet hôtel de Bernu, qui est un des rares de la période à être venu à peu près intact jusqu'à nous. Il meurt en, je ne retrouve pas la date, mais il meurt dans les années 1556, ici, certes, probablement de la peste, hein, et il est enterré dans le cloître des Jacobins, c'est-à-dire qu'il traverse la rue, et il a sa demeure éternelle dans le cloître des Jacobins, et je crois que
s'appelle Saint-Jacques.
Exact, oui, oui, merci Sébastien. Voilà, on lui doit aussi dans
donc
la gardiage.
Donc il est mort de maladie, est-ce que c'est lui qui a été réputé être mort pour avoir été percuté par un taureau?
Oui, il y a cette légende aussi.
Il y a cette légende, oui,
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 oui.
Alors, bon, la peste, oui. Le taureau.
Enfin, tout ça a été enjolivé.
L'année est sûre, en revanche. Et on lui doit aussi, donc, alors, par contre, ce monument n'est plus visible, cet édifice n'est plus visible. Il s'agit du château de Palificat, mais qui est un quartier du gardiage qu'on avait étudié. Et donc, voilà, c'est des revenus, des ressources. Et il a une fille qui s'appelle Éléonore de Bernu, qu'on retrouvera dans une prochaine émission. Et qui va encore tisser sa toile ou son fil de Pénélope, je ne sais pas comment dire, pour eh bien, développer ce mouvement des parlementaires et des commerçants, et ainsi fabriquer la grande toile des élites, ou des, comment appeler ça, comme
oui,
vous voulez.
Oui, nous étions aujourd'hui à la racine de cette aventure.
Une brève question.
Et on va la retrouver tout le temps. Tout le temps
une brève question, catholique ou protestante?
C'est une bonne question.
On
se verra plus tard. Oui. Mais on ne va pas y répondre maintenant. Mais plus on s'élève dans cette hiérarchie, et moins on est dans la norme.
Mais par mariage, on était quand même... je parle de Jean de Bernuy, oui, ancien marane. On était quand même catholique.
Oui, il a été très généreux. Il y a des panégyriques qui disent de lui que c'est un homme d'affaires, certes, mais très, très généreux avec les pauvres. Voilà, on va retenir ça de lui.
Mais alors, et dans une prochaine émission, on verra que ceci, sans doute, se vérifie. Merci beaucoup.
Merci, bonne semaine.
Merci Sébastien, bonne semaine.